Merci de rester à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Messieurs, dames, l'ordre du studio Kalangou affiche 18h. C'est l'heure du journal en français présenté par Diallo Maria Makenda. Bonsoir, bienvenue. Voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a procédé hier à un remaniement technique du gouvernement. Détail dans ce journal. 60 millions de dollars, c'est la somme promise par les Américains dans le cadre du financement de la force conjointe du G5 Sahel. L'annonce a été faite lors de la réunion du Conseil de sécurité tenue hier lundi 30 octobre au siège des Nations Unies. On en parle tout de suite. Enfin, ce soir, dans votre partie magazine, nous parlerons de la taxe immobilière, un sujet d'actualité avec le projet de loi de finances 2018. Un décret portant remaniement du gouvernement a été signé hier lundi 30 octobre 2017 par le président de la République, Issoufou Mamadou. L'on note le départ du ministre d'État en charge des transports, Omar Hamidou Tchana, président du parti Amen Amin, alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, allié du parti au pouvoir. Il est remplacé par Mamadou Karidjo, député et président de la Haute Cour de justice au moment de sa nomination. Malam Zeynabou Amin fait son entrée au gouvernement à la tête du ministère de l'Industrie en lieu et place d'Abdou Maman. Malam Zeneidou Aminou fait son entrée au gouvernement à la tête du ministère de l'Industrie en lieu et place d'Abdou Malam. Kafar Kiatou Christelle Jacou quitte le ministère de la Population pour celui de la Fonction publique et de la Réforme administrative. À son poste est nommé Amadou Aissata, une permutation entre ces deux dames. Enfin, Issoufou Katangbe, un cacique du parti du pouvoir au pouvoir, par ailleurs chargé d'organiser la fête tournant du 18 décembre où Tawa Sokola prend le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, remplaçant ainsi un autre cadre du PNDS, Barmou Salifou. Suite au remaniement technique du gouvernement d'hier, le président de la Haute Cour de justice, Karidjo Mamadou, est nommé ministre des Transports. Pourtant, la Constitution du 25 novembre 2010, à son article 143 alinéa 5, dit, je cite, « Les membres de la Haute Cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature. » Pour mieux comprendre, nous avons rencontré le constitutionnaliste Amadou Hassan Boubacar. Nous l'écoutons.
L'article 143 de la loi fondamentale dit que les membres de la Haute Cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature, ce qui a été reprise d'ailleurs par l'article 5 de la loi 2011-41 du 14 décembre fixant les règles de fonctionnement et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice, dont l'article 7 est très clair, qui a prévu seulement deux situations dans lesquelles un membre peut être amené à remplacer: le cas de décès, de démission et d'incapacité d'un membre justement à exercer ces fonctions-là. Donc en l'espèce, je pense qu'il n'y a pas une démission formelle de la part de M. Karidjo Mamadou en tant que président de la Haute Cour de justice et membre de la Haute Cour de justice. Donc en le nommant à un poste de membre du gouvernement, justement cela traduit ni plus ni moins une violation des dispositions de l'article 143 de la Constitution et de l'article 5 de la loi fixant les règles de fonctionnement et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice.
Propos recueillis par Habibou Garba. La compagnie de transport STM reprend officiellement ses activités ce mardi 31 octobre 2017 avec un départ sur l'axe Tawa à 14h après 3 jours de suspension. Il vous souviendra qu'au lendemain du grave accident du vendredi dernier impliquant un bus de la compagnie ayant occasionné 26 morts et 27 blessés, le ministre des Transports lui a retiré provisoirement son autorisation d'exercice. Lors de la réunion du Conseil de sécurité tenue hier lundi 30 octobre au siège des Nations Unies, les Américains ont annoncé un appui de 60 millions de dollars à la force conjointe du G5 Sahel. N'est-ce pas, Tornan Foudé Ahmed?
Washington a annoncé hier une aide bilatérale de 60 millions de dollars, soit environ plus de 33 milliards de francs CFA, en guise de soutien à la force conjointe du G5 Sahel, sans préciser comment ces fonds seront divisés entre les pays membres, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. Washington, qui avait menacé au mois de juin dernier de mettre son veto si l'ONU finançait cette force conjointe, reconnaît aujourd'hui l'urgence d'appuyer cette force qui va lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Jusqu'au vendredi passé, les discours de Washington restent les mêmes. Pas question d'apporter un soutien financier à cette force dont les orientations ne sont toujours pas claires, a déclaré Hiki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU en marge de sa visite en République démocratique du Congo. En effet, si la participation du pays aux opérations antiterroristes en Afrique était jusque-là minimisée, elle a été mise en exergue avec la mort de 4 soldats américains tués dans une embuscade près de la localité de Tango Tango au Niger le 4 octobre dernier, une affaire qui a soulevé un tollé aux États-Unis.
Le porte-parole national du parti de l'opposition Lumana Africa, Mahaman Salisu, dit léger, a été interpellé hier par la police judiciaire de Maradi et transféré vers Niamey. Cette interpellation fait suite à une interview qu'il a accordée sur une radio privée de la place relativement au projet de loi de finances 2018. Après le président de l'association Actis, Abbas Abdelaziz, interpellé hier à la police judiciaire, c'est le tour de deux autres membres de l'association d'être arrêtés toujours à la police judiciaire. Tous les trois sont gardés à vue. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, à travers un arrêté, a mis fin aux activités d'Actis sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, c'est l'association Actis qui a organisé le meeting du dimanche dernier qui a donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des éléments de la police d'Agadez en position de sécurité aux alentours de la ville sur la route de Zender ont été pris à partie par un véhicule armé le vendredi 27 octobre aux environs de 6 heures du matin. Le gouverneur d'Agadez, Sadou Soloké, qui a fait le déplacement au commissariat de police d'Agadez, a rassuré que d'autres positions de sécurité seront multipliées autour de la ville pour éviter de telles situations.
Nos éléments qui veillaient donc à la sécurisation de la ville ont été pris à partie par un véhicule armé qu'ils ont voulu arrêter. Et le véhicule sacha, qu'il était porteur probablement de cargaison prohibée, a ouvert le feu sur la police. Mais à voir l'impact et la trajectoire, notre agent était visé, c'était le chauffeur. Ils ne l'ont pas atteint et ils ont rebroussé chemin pour revenir dans la ville. Nous avons immédiatement entrepris la poursuite des autres véhicules qui étaient venus à la rescousse et nous avons également engagé du ratissage dans la ville d'Agadez. Pour le moment, l'ensemble de ces initiatives n'a rien donné encore, mais nous continuons de traiter la question.
Propos recueillis par Moussa Maman. Nous sommes dans la période de l'Harmattan, un vent du nord-est très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et le plus souvent chargé de poussière. Il souffle vers début novembre et le milieu du mois de mars. Quels sont les vêtements adéquats durant cette période? Nous étions au marché de Ouadata où se vendent les friperies. Voici notre reportage. Installé dans un petit magasin, bien ravitaillé en friperies au bord du goudron à l'entrée du marché de Ouadata, Soumana Soulé discute avec une femme qui est venue acheter des habits d'enfant contre le froid. En face de lui, deux autres qui font leur choix. Soumana, lui, est revendeur en gros et en détail. Il revient tout juste de Gaïa où il s'approvisionne. C'est pour lui un soulagement de voir des clients qui affluent.
Les clients arrivent en compte-gouttes pour l'instant. Ce sont les vêtements de froid pour les enfants qui sont demandés. Nous apportons aussi pour les adultes, mais pas en grand nombre. Et même si nous les amenons, ce sont les ruraux qui viennent ici les acheter en balle, en gros quoi. Il y a aussi ceux qui voyagent et ceux qui partent au travail. C'est très bon matin.
Parmi les clientes, Foureira, qui a l'embarras du choix, se dépêche de prendre les plus beaux vêtements. Foureira estime qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
Je suis venue acheter des vêtements pour protéger mes enfants contre le froid. Parce que quand le froid arrive, cela peut engendrer des conséquences sur la santé. Les jours à venir, les vêtements vont coûter plus cher.
Selon Soumana Soulé, les habits en cette période ne sont pas chers. Il y en a pour tous les prix. Nous sommes au début de l'Harmattan, un moment où le vent souffle et cause des incendies et les feux de brousse. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Quelles sont les causes de ces feux de brousse? Colonel Doukia Kaka, directeur de la protection de la nature et de l'équipement à la Direction générale des eaux et forêts, au micro de Moutari Mahamadou.
La situation des feux de brousse n'est pas tellement alarmante à l'heure actuelle, contrairement aux autres années. À cette date, nous avons environ 4500 hectares sur toute l'étendue du territoire national brûlé, dont le gros lot, c'est la région de Zander, où nous avons plus de 3800 hectares brûlés. Donc les autres se résument à 200 hectares ou 250 à Maradi, 100 et quelques à Tilaberi, ainsi de suite. Les causes des feux de brousse, c'est généralement la main humaine. Les statistiques de 2010 à aujourd'hui nous donnent plus de 95% des auteurs de feux de brousse se résument aux femmes et les enfants de la zone pastorale. À l'endroit de ces bras valides que nous lançons un appel pour que dès qu'un feu se déclare, il faut tout faire pour le maîtriser. Dieu merci, avec les bandes parfaites qu'on installe un peu partout, c'est difficile d'avoir maintenant un grand feu comme dans les années antérieures. Si ces bandes-là sont bien faites.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de ce journal à présent, dans le cadre de la Journée mondiale de l'information sur le développement qui a lieu tous les 24 octobre, un salon national de l'information sur le développement au Niger s'est tenu à la place Toumoumou du 24 au 28. Nous nous sommes entretenus avec le représentant de la Direction générale des impôts sur la taxe immobilière, un sujet d'actualité avec le projet de loi de finances 2018, Seyni Ayouba.
Dans le domaine de la taxe immobilière, qu'est-ce qui nous intéresse? Sur quoi on se base pour imposer, pour faire ce qu'on appelle la taxe immobilière? C'est d'abord le sol. En dehors des sols qui sont cultivés, nous nous intéressons plus particulièrement aux sols qui sont prévus pour faire du commerce, pour faire de l'industrie, en tout cas à but lucratif, à ceux qui peuvent pousser sur le sol. Donc tous les immeubles que vous voyez là sont dans le domaine de l'application de la taxe immobilière. Également à tout ce qui est souterrain, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal d'installations que vous avez en sous-sol, pour ne pas aller au-delà, citer des sociétés, pour vous dire que c'est un domaine très l'âge. La taxe immobilière, il y a deux catégories. Il y a la taxe immobilière sur les sociétés. La société donne, à travers ses chiffres, le montant des immobilisations qu'elle a. Et à travers ces montants, nous prenons 1% de l'ensemble. Vous savez, si vous déclarez 35 millions, on prend 1%, ça fait 350 millions, je crois. Alors, la taxe immobilière sur les personnes physiques, un immeuble que vous louez à 1 million, on évalue ce que vous gagnez par année. Ça veut dire que 1 million fois 12, ça fait 12 millions. Nous prenons 10% de ces 12 millions, c'est ça qui fait 1 million 200. Voilà un peu la taxe immobilière. Elle est dû pour l'ensemble des propriétaires qui ont, en français facile, des immeubles, excepté les immeubles en banco qui n'ont pas de revenus. Votre résidence principale. C'est principalement ces deux cas qu'il faut retenir. Vous avez la taxe immobilière à payer pour votre deuxième résidence, c'est-à-dire que votre résidence secondaire, vous avez une femme, la deuxième est dans une autre maison, vous devez nécessairement payer la taxe immobilière. Lorsque vous mettez à titre gratuit une de vos maisons à la disposition d'un parent, un oncle et tout ça, là vous avez également la taxe immobilière à payer.
Sur quoi est calculée la taxe immobilière?
Nous avons aujourd'hui trois méthodes de pouvoir calculer la taxe immobilière. D'abord, lorsque une maison en location, il est écrit le verbal. Maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode par évaluation administrative. Nous avons aujourd'hui des services compétents capables de vous dire, en fonction des zones, le mètre carré que vaut cette maison, pour pouvoir nous permettre de définir, si vous voulez, le prix du revient en lui-même de cette maison-là, à partir duquel nous pouvons calculer cette taxe-là. Évidemment, les maisons n'ont pas les mêmes valeurs suivant les zones. Aujourd'hui, quand vous prenez Talaje et Kwarakano, que ce soit le même modèle, mais c'est pas le même prix de revient. Vous comprenez? La troisième, c'est évidemment par comparaison. Vous avez deux immeubles qui se ressemblent. S'il y a un qui est en location, eh bien c'est très simple. Nous prenons comme repère les frais de location pour pouvoir mettre ça sur le deuxième cas.
Comment payer cette taxe-là?
Lorsqu'on vous remet le papier au mois de janvier, vous avez la possibilité de payer ça en une seule fois. Il y a une deuxième manière de payer, c'est en deux semestres. Au plus tard le 31 mars et au plus tard le 30 juin pour la deuxième échéance.
Nous voilà au terme de cette édition. Bonne suite de programme en compagnie de Seyni Ayouba Kaka. Retrouvez-le tout de suite au forum de studio Kalangou qui traitera du fonctionnement de l'hôpital national.